Monsieur le professeur, vous êtes né en 1941, vous êtes diplômé de l'étude de l'Institut d'études politiques de Paris, docteur en sciences économiques à l'Université Panthéon-Sorbonne, agrégé de sciences économiques. Vous êtes actuellement professeur des sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, au Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Vous êtes senior associate du Cambridge Energy Research Associates, ainsi que consultant pour le département énergie de la Banque mondiale. Vous êtes donc un spécialiste en économie industrielle. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont « La structure financière de l'industrie américaine » paru en 70, « Le nouvel enjeu pétrolier » paru en 73, « L'économie industrielle en question » paru en 77, « L'échiquier industriel » paru en 80, « L'industrie en France » en 83, « L'économie de l'énergie » en 86 et enfin « L'économie industrielle des stratégies d'entreprise » paru en 95. Monsieur le professeur, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. C'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur d'être ici avec vous ce soir pour vous parler d'un sujet qui, a priori, ne disait pas grand-chose à beaucoup de personnes dans son titre initial, car après que le titre « La concentration et ses limites » il était affiché, j'ai reçu quelques coups de téléphone me disant « ça veut dire quoi ?» Alors j'ai fait préciser « la concentration économique et ses limites ». Et vous allez voir que c'est un sujet qui est un sujet complètement passionnant, parce qu'il s'ancre dans l'histoire, et je dirais dans l'histoire de notre économie mondiale, et qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui nous interpelle, je dirais, presque tous les jours quand on lit la presse économique. Quand on parle de concentration économique, à quoi fait-on référence? On fait référence essentiellement à la structure d'un secteur donné, ou la structure d'une industrie. Et la question qu'on se pose, c'est cette structure industrielle, comment est-elle construite? Combien y a-t-il de participants? Autrement dit, si un secteur donné, je ne sais pas, la chaussure, est constitué par un très grand nombre de fabricants de chaussures, on dit que ce secteur est peu concentré. Si au contraire nous avons deux fabricants ou éventuellement un seul, on dit que ce secteur est très concentré. Et ça pose immédiatement un problème. Derrière cette structure en termes numériques, quelle est la force, quelle est la vivacité de la concurrence qui sévit dans ce secteur? Et se poser la question de la concurrence est une question très importante parce que, qui est directement associée au niveau des prix et au niveau de la répartition des ressources et du bien-être de la société. Alors, plus spécifiquement, vous allez le voir, ce qui est derrière la notion de concentration économique, c'est ce que les économistes appellent le pouvoir de marché. Et le pouvoir de marché, c'est le pouvoir qu'une entreprise peut avoir d'agir sur un marché essentiellement en termes de prix, ou en termes de quantité, ou en termes de qualité des produits qui sont vendus sur le marché. Et nous avons à l'heure actuelle le procès Microsoft, qui montre bien que derrière ce procès Microsoft se pose le problème de la concentration économique dans des marchés particuliers liés aux micro-ordinateurs et à l'Internet. J'ai bien réfléchi sur l'intitulé du sujet et je vais le traiter en trois parties. D'abord donc un peu de théorie, la concentration et le pouvoir de marché. Et je dirais que c'est dans cette première partie, je vais faire un petit peu la théorie de la concentration économique d'une façon très accessible, sans trop compliquer les choses. Dans un deuxième temps, je parlerai de l'histoire de la concentration. On m'a reproché il n'y a pas longtemps en disant qu'à Dauphine, on ne faisait pas assez d'histoire. À Dauphine, on fait de l'histoire. Et l'histoire est pour nous un référentiel fondamental. On ne peut pas comprendre l'état du monde aujourd'hui, on ne peut pas comprendre vers où on va si on n'a pas des références historiques de ce qui s'est passé pour un même sujet. Et de voir des repérages, des répétitions, des différences qui sont des référentiels importants. Et ma troisième partie sera concentrée à la concentration économique dans ce qu'on appelle la nouvelle économie, un mot que tout le monde a à la bouche à l'heure actuelle, et qui est en fait une partie qui sera consacrée à la prospective de la concentration économique. Comment aujourd'hui peut-on voir l'évolution de cette concentration et des problèmes qu'elle pose? Alors, premièrement, donc, concentration et pouvoir de marché. En théorie économique, nous avons deux modèles de référence qui sont presque deux modèles antinomiques, opposés. D'un côté, ce qu'on appelle le modèle de concurrence pure et parfaite, et à l'opposé, le modèle de monopole. Et ce qui différencie en partie ces modèles, c'est que dans la concurrence pure et parfaite, il y a une multiplicité d'intervenants, et dans le monopole, il n'y en a qu'un. La concurrence pure et parfaite, un modèle qui a été élaboré au cours du 19e siècle, mais qui était déjà présent chez des classiques comme Adam Smith ou Ricardo, cette concurrence pure et parfaite, elle est caractérisée par 5 conditions dans un secteur donné. Quand je dis secteur, je prends une industrie avec un produit, un marché. Alors parfois c'est trop simple, bien sûr, quand je parlais tout à l'heure de la chaussure, il y a tellement de différences de chaussures, donc de différents marchés, qu'il est difficile de ramener ça à un seul marché. Si je prends le ciment ou le blé, c'est plus simple, parce qu'il y a bien un produit de qualité standard, avec une production diversifiée, et puis un marché sur lequel se forme un prix. La concurrence pure et parfaite, elle est donc caractérisée par 5 conditions classiques. La première, c'est l'atomicité du marché. Et atomicité, eh bien, c'est comme les atomes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un très grand nombre de producteurs qui sont effectivement en concurrence les uns, je dirais presque, contre les autres. Deuxième caractéristique, l'homogénéité du produit. Il faut que le produit produit par l'usine A puisse être complètement substituable au produit qui sort de l'usine B, etc. Troisième condition, liberté d'entrée-de-sortie. C'est-à-dire que l'usine A, si elle ne gagne pas sa vie, peut sortir sans coût, et inversement, quelqu'un, un nouveau producteur, peut entrer dans l'industrie sans qu'il y ait des barrières trop hautes ou des coûts trop importants. Quatrième condition, la transparence. On peut voir un peu partout comment se font les prix, quels sont les niveaux de prix. Et on peut donc aller, pour un consommateur donné, vers celui qui fournit le prix le plus intéressant. Ceci va amener d'ailleurs une homogénéisation des prix. Et puis, mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire que du capital ou du travail peuvent se remplacer l'un et l'autre et peuvent passer éventuellement d'un secteur à l'autre. À l'inverse de cette situation de concurrence pure et parfaite, on a le monopole dans lequel nous avons un seul producteur qui alimente le marché. Et donc, vous voyez, c'est l'opposé, un seul acteur. Que nous dit la théorie économique ? La théorie économique, elle nous dit que si on compare ces deux situations, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire avec des conditions de coût, de qualité, de technologie identiques, eh bien la comparaison est simple. Le prix de monopole est plus élevé que le prix de concurrence pure et parfaite, et la quantité produite par le monopole est inférieure à la quantité produite par la concurrence pure et parfaite. Il n'y a pas besoin d'être grand clerc ni grand économiste pour dire qu'à partir du moment où on admet ces évidences quasi mathématiques, le monopole c'est mauvais, la concurrence c'est bon. C'est tout simple. Le monopole c'est mauvais parce qu'on produit moins et qu'on vend plus cher, la concurrence pure et parfaite c'est bon parce qu'on produit plus et qu'on vend moins cher. Donc en termes d'allocation des ressources, il n'y a pas une seconde de doute, il n'y a pas une seconde à hésiter, le monopole est mauvais, la concurrence pure et parfaite est bonne. Sauf certains cas particuliers, qu'on appelle le cas des monopoles naturels, et où on peut démontrer, mais c'est une chose qui est en train d'être remise en cause, que par exemple, pour un réseau de chemin de fer, c'est peut-être plus efficace d'avoir un seul opérateur du réseau qui construit le réseau et opère le réseau, mais c'est remis en cause aujourd'hui. Pendant longtemps, on a dit aussi que pour les télécommunications, c'était plus efficace d'avoir un seul opérateur, donc en monopole, qui construit le réseau, qui opère le réseau et qui donc nous fournit les télécommunications. Mais c'est une grande discussion d'aujourd'hui. Alors, j'introduis deux idées intéressantes. C'est que dans ce que je viens de vous dire, en concurrence pure et parfaite, la firme est, on dit, un price taker. C'est-à-dire la firme, elle prend le prix tel que l'établit le marché. Elle n'a pas le choix. Si elle ne vend pas ce prix-là, elle coule. Donc il faut qu'elle vende à un prix qui est celui du marché. Price taker. Au contraire, un monopole est par définition un price maker. Il est tout seul. Donc il va à la fois décider la quantité qu'il produit et le prix auquel il vend cette quantité de façon à maximiser son profit. Et là encore, on a une démonstration assez simple. Et c'est parce qu'il veut maximiser son profit qu'il va restreindre sa production pour augmenter ses prix. Bien. Alors, si j'introduis le terme de pouvoir de marché, on dit que dans la concurrence pure et parfaite, la firme n'a pas de pouvoir de marché puisqu'elle ne peut absolument pas influencer le prix. Par contre, en monopole, la firme ou le monopoleur a évidemment un pouvoir de marché maximal puisqu'il est un faiseur de prix. Dans la concurrence pure et parfaite, on dit que la concentration est excessivement faible puisque structure atomistique, donc concentration zéro. Dans le monopole, la concentration est absolue, concentration 100, puisque le monopole a 100% du marché. Donc, le terme de concentration économique qui est l'objet de cette conférence, c'est bien un concept qui se réfère à la structure du marché et plus précisément au nombre d'offreurs qui interviennent sur ce marché. Et sur la question de savoir quel pouvoir possède une firme par rapport au marché. Le terme de pouvoir de marché, qui est relativement récent dans la littérature économique française, il est introduit dès le 19e siècle aux États-Unis, market power, le pouvoir de marché, est défini de la façon dont une firme, on dit qu'elle possède un pouvoir de marché lorsqu'elle peut durablement se comporter d'une façon différente de ce qu'elle ferait en concurrence pure et parfaite, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'en concurrence pure et parfaite, elle n'aurait pas d'action sur le marché, et donc si elle a une action, c'est qu'elle a du pouvoir de marché. En allant plus loin dans l'analyse, et je me réfère essentiellement à des travaux américains, je vous dirai pourquoi après, parce que les Américains nous ont précédés d'un siècle dans la découverte de ces problèmes de concentration et de pouvoir de marché, les Américains distinguent ensuite trois grandes formes de pouvoir de marché. Pouvoir horizontal, pouvoir vertical et pouvoir congloméral. Pouvoir horizontal, c'est lorsque ce pouvoir se réfère sur un marché donné avec, par exemple, une part importante de ce marché. Et qui lui permet par conséquent d'agir sur les prix. Il est évident, et là je me réfère à des schémas que l'on peut avoir en tête, lorsque nous avons un marché sur lequel une firme a 60% du marché, et puis les 40% restants se répartissent entre 10-12 firmes, celui qui a 60% a un pouvoir de marché parce qu'il dispose de multiples méthodes pour décourager les autres de pratiquer des politiques de prix qui lui déplaisent. Ce pouvoir de marché horizontal, il peut être exercé par une firme ou il peut être aussi exercé collectivement. Ce qui d'ailleurs nous amène à la théorie de l'oligopole. L'oligopole, c'est une structure dans laquelle donc, il y a plusieurs, un petit nombre de firmes. Vous voyez, concurrence pure et parfaite, une infinité, monopole un seul, oligopole deux, ça s'appelle le duopole, trois, le triopole, quatre, cinq, six, un petit nombre. Et ce petit nombre... Alors, la théorie de l'oligopole a donné lieu à une littérature qui est faite de milliers d'articles, de milliers de bouquins. Enfin, c'est une des parties les plus riches de la recherche économique, qui inclut naturellement dans les travaux les plus récents toutes les sophistications de la théorie des jeux. Parce que dans le fond, c'est un jeu. Mais un auteur américain qui s'appelle William Fellner, en 1949, a publié un bouquin qui s'appelle Competition Among the Few, concurrence parmi un petit nombre. Et il a dans ce bouquin quelque chose de très intéressant qui est de dire, dans le fond, dans une situation d'oligopole, il y a toujours deux tendances antinomiques qui s'opposent. La tendance à la collusion, c'est-à-dire s'entendre entre deux pour que tout marche, ou la tendance à la cutthroat competition, la concurrence à couteau tiré. C'est-à-dire que dans certains cas, les oligopoleurs vont se dire, bon, on va se réunir dans une salle d'hôtel, et puis on va fixer les prix, et puis rien ne bouge. Et on est tranquille. Dans d'autres cas, pour différentes raisons, non, on se bat. Chacun voulant prendre des positions de marché, chacun voulant essayer de se battre contre les autres pour essayer de gagner davantage. Et entre cette compétition d'un petit nombre ou cette collusion d'un petit nombre, il y a plein de situations intermédiaires. La situation la plus dure en termes de comportement collusif, c'est le cartel, où un ensemble de firmes décide de fixer ensemble les conditions de prix, de quantité de production, et donc, autrement dit, le cartel, c'est un monopole à plusieurs. Et puis, il y a des situations un peu plus molles, collusion explicite, collusion tacite, parallélisme conscient. On a vu aux États-Unis les grandes marques de tabac, pendant des années, chaque année, dépenser 20% de leur chiffre d'affaires en publicité. Même chose. Ils n'ont jamais été condamnés. Mais il est évident qu'en faisant cela, ils élevaient considérablement les barrières à l'entrée, car tout nouvel entrant était immédiatement découragé par le fait de faire face à un produit hyper différencié par publicité. Allez-vous battre contre Marlboro quand la marque est déjà très solidement établie ? Donc c'est un peu un comportement collisif d'un comportement de pouvoir de marché à plusieurs. Voilà pour le pouvoir horizontal qui est celui qui a été le plus étudié et qui est peut-être le plus dangereux immédiatement. Pouvoir de marché vertical, c'est le pouvoir de marché qui est entre les mains d'une entreprise qui est verticalement intégrée et qui, par conséquent, par rapport à un concurrent qui n'est pas verticalement intégré, peut entraîner des distorsions de concurrence. Si son concurrent pas intégré dépend de firmes intégrées pour avoir des biens intermédiaires, on peut jouer sur les prix pour le décourager et l'exclure du marché. Donc, une forme de pouvoir vertical. Et puis le pouvoir conglomérat, c'est le pouvoir qui est conféré à une entreprise qui est très diversifiée, donc elle vend des produits dans des secteurs très différents, avec des cycles du produit différents, des conjonctures différentes, et que par conséquent, elle peut habilement jouer de subventions croisées pour subventionner un produit où la concurrence est dure, avec les rentes de monopole qu'elle perçoit sur un produit où la concurrence est moins dure. Et par ce jeu de subventions, elle peut évidemment gêner de façon très forte les concurrents plus spécialisés qui n'ont pas les moyens de s'opposer à ce jeu de subventions croisées. Donc, voilà les notions de pouvoir de marché, un pouvoir d'action sur le marché, un pouvoir d'action sur les prix, un pouvoir de distorsion de la concurrence. Est-ce qu'on peut mesurer ce pouvoir de marché ? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a un très grand nombre d'indices très compliqués qui permettent éventuellement de le mesurer, qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Les indices de Gini, les indices de Herfindahl, Hirschman, etc. J'en citerai un qui est peut-être le plus simple, qui est l'indice de Linda, un économiste italien des années 80, qui avait, pour étudier la concentration et ses mesures, mis au point un indice qu'on appelle le C4. Le C4, c'est le chiffre d'affaires des 4 premières entreprises d'un secteur, comparé à l'ensemble du chiffre d'affaires du secteur. Et il avait dit, si ce C4, donc le chiffre d'affaires des 4 premiers, est supérieur ou égal à 80%, on est dans ce qu'il appelait la zone rouge. Et la zone rouge, il l'a qualifiée danger grave et probable d'atteinte à la concurrence. Il y a une espèce de présomption. On dit, ils sont 4, ils se partagent 80% du marché, les chances qui, d'une façon ou d'une autre, ils s'entendent entre eux sont très fortes. S'ils sont plus nombreux, le danger diminue. Et ainsi, dans ces indices de Linda, lorsque le C4 était compris entre 60 et 80%, c'était la zone orange, danger sérieux et possible, puis de 40 à 60, la zone jaune, situation à suivre, et enfin la zone verte, où il y avait une présomption de concurrence. Si l'économiste Linda met en place ces indices, c'est pourquoi ? Pour que les autorités de la concurrence puissent surveiller un secteur de façon à voir si, oui ou non, il y a une concurrence qui joue ou pas. Voici la théorie. Voici la théorie, et j'ai essayé de montrer, par conséquent, ce que c'était que la concentration économique, comment on pouvait la définir, et ce qu'elle avait comme corollaire, c'est-à-dire le pouvoir de marché. Avec deux choses qu'on va voir maintenant dans la deuxième partie, c'est que dans ces situations, quel est le désir des firmes ? D'avoir le plus de pouvoir de marché possible. Un consultant disait, il n'y a pas de situation plus inconfortable que celle de la concurrence. C'est affreux la concurrence. Concurrence par les prix, par l'innovation, par, etc., etc. Donc les firmes cherchent par tous les moyens à protéger les rentes de monopole qu'elles peuvent capter individuellement ou collectivement par le fait d'établir un pouvoir de marché qui permet justement de créer ces rentes. Mais à côté des entreprises, nous avons en principe et en théorie des pouvoirs publics, nous y reviendrons, qui doivent veiller à ce que l'allocation des ressources se fasse honnêtement, dans les meilleures conditions possibles, qui souhaiteraient par conséquent qu'il y ait un modèle de concurrence pure et parfaite, mais qui sont suffisamment, qui ne sont pas assez naïfs pour penser que ça existe. La concurrence pure et parfaite, elle n'est pas de ce monde. mais on peut essayer de rêver à ce que certains économistes américains appellent la « workable competition », c'est-à-dire une situation dans laquelle, je ne la traduis pas littéralement, je la traduis en disant c'est une situation dans laquelle les tendances à la concurrence sont plus fortes que les tendances au monopole. It works, ça marche. Donc « workable competition », qui est donc sans avoir le rêve de la concurrence pure et parfaite, nous donne une vision, je dirais, plus opérationnelle des choses, mais visant à une bonne allocation des ressources. Je passe à ma deuxième partie, et qui est donc, à partir de cette théorie, l'histoire de la concentration économique et de ses limites. Et je vais avoir examiné en un premier temps l'histoire très américaine qu'il est indispensable de connaître pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et je parlerai ensuite des mouvements actuels de concentration et leurs limites. Je vous dirai pourquoi l'histoire de la concentration est très américaine après. Mais je remonte maintenant, je suis dans la deuxième partie du 19e siècle, après la guerre de sécession, se construit aux États-Unis le capitalisme d'une façon un peu sauvage. Tous les coups sont permis, un peu comme la conquête de l'Ouest. C'est un capitalisme de pionnier, d'entrepreneur, au sens très fort du terme, de créateur. Mais c'est aussi, on va le découvrir rapidement, l'ère des robber barons, les barons voleurs. Et les barons voleurs, ce sont ces grands capitaines d'industrie qui, certes, sont au départ des pionniers et des créateurs, mais qui rapidement comprennent qu'en créant du pouvoir de marché et donc de la concentration, on peut se remplir les poches allègrement sur le dos des consommateurs citoyens. Et à partir de là, une discussion passionnante s'entame entre les économistes américains de l'époque. Faut-il ou non intervenir? Doit-on laisser ces barons jouer leur jeu et faire ce qu'ils veulent, ou doit-on poser des règles du jeu plus claires? Et là, nous avons deux écoles. Je suis en 1860. Qu'on retrouve aujourd'hui en 2000 pour le procès de Microsoft, les uns disent « oui, il faut intervenir », les autres, dans une optique assez darwinienne, disent « non, non, il faut laisser faire ». S'ils sont forts et gros, c'est qu'ils sont bons. Donc, laissons-les faire. Et puis, ils seront remplacés par d'autres après. Peu importe. Donc, cette discussion fondamentale entre le laisser-faire total, qui est un peu l'ultralibéralisme, et un interventionnisme raisonnable date du XIXe siècle. Et pour illustrer mon propos, l'un des exemples que je prends toujours avec mes étudiants et que je peux prendre avec vous, mais parce qu'il est tellement un microcosme de ce qui se passe, c'est la fameuse histoire de John Davidson Rockefeller, le Trust Rockefeller, dont on reparle aujourd'hui. C'est le début de l'ère du pétrole. Le pétrole, on le découvre en 1859, c'est très récent. Et le pétrole, au début, il n'a pas de marché. Et puis, dans les années 60, tout d'un coup, on s'aperçoit que, et c'est, à mon avis, la naissance du premier grand marché de consommation moderne, c'est le pétrole lampant. C'est-à-dire le pétrole qu'on va utiliser pour les lampes à pétrole, où la lampe à pétrole remplace dans les foyers la bougie et la chandelle. Un progrès extraordinaire. Vous remplacez une lumière vacillante, faible, qui sent mauvais, qui est difficile à gérer, par une source de lumière puissante, modulable, que l'on peut gérer d'une façon optimale. Donc des milliers, des millions de consommateurs américains vont passer à la lampe à pétrole et acheter par conséquent du pétrole lampant. Entre le pétrole brut qu'on trouve dans la terre et le pétrole lampant, il faut le raffiner. Et une raffinerie, c'est quoi? C'est une grosse casserole, on fait bouillir du pétrole brut, et puis il y a des gaz qui sortent, et à l'époque on s'en fout, et puis il reste dans le fond des produits qui n'ont pas tellement d'utilisation, les bitumes, etc. Puis au milieu, il y a un pétrole purifié, qui a toujours eu de l'essence, et qu'on va utiliser dans ces lampes à pétrole. Rockefeller, il a trois idées de génie. Rockefeller, premièrement, il ne va pas se salir les mains à aller forer des puits pour ne trouver du pétrole ou pas en trouver. Il laisse ça à ces milliers de petits prospecteurs indépendants qui y vont, qui prennent le risque. Lui, il construit une raffinerie à Cleveland, grand marché de consommation, et la raffinerie la plus grosse des États-Unis, ce qui donne la position de plus gros acheteur de pétrole brut et de plus gros vendeur de produits raffinés. Deuxième idée de génie, ces produits, il les appelle les Standard Oil. Vous pouvez être sûr que lorsque vous achèterez le baril bleu et rouge de la Standard, vous aurez un produit fiable. C'est du marketing moderne. avoir confiance dans mes produits. Troisième idée de génie, comme il est la plus grosse raffinerie, il va négocier avec les compagnies de chemin de fer qui transportent le pétrole en lui disant « Vous me consentez des réductions parce que je suis le plus gros. Et puis si vous ne voulez pas me consentir de réductions, ben, j'ai une arme absolue, je vais construire des pipelines et je me passerai de vos services. » Ils n'ont pas le choix. Ils consentent à Rockefeller des réductions qu'ils ne consentent pas aux autres. Et fort, on dirait aujourd'hui, cet avantage comparatif énorme, Rockefeller va voir les autres raffineurs et leur disent « Vous savez, je vais baisser mes prix la semaine prochaine, mais si vous voulez, je peux vous acheter. Non pas en cash, parce que j'en ai pas, mais je vous offre des actions privées de droit de vote, évidemment, de mon trust, la Standard Oil. » Ils n'ont pas le choix. Et donc, ils se vendent pieds et poings liés à Rockefeller, qui constitue dans les années 80 une société, donc le groupe de la Standard Oil, 80% du marché américain des produits raffinés. C'est un cas passionnant. C'est un cas passionnant parce que Rockefeller se trouve dans une double position de monopole et de monopsone. Monopole, ou à peu près monopole à 80%. Il vend 80% des produits raffinés aux consommateurs individuels. Monopsone, il achète 80% du pétrole brut aux milliers de petits producteurs. Donc il a un pouvoir de marché à l'aval, il a un pouvoir de marché à l'amont. C'est un des rares cas dans l'histoire économique. Mais derrière ce que je dis, vous comprenez, dans cette Amérique magnifiquement analysée par Tocqueville de pouvoir et de contre-pouvoir, que les agissements de Rockefeller n'ont pas fait la joie de tout le monde. Les consommateurs ont un peu l'impression de payer un prix de monopole. Les producteurs de pétrole brut ont l'impression qu'ils vendent le prix au prix décidé par Rockefeller. Et les raffineurs n'ont pas été très contents de se vendre dans des conditions discutables à Rockefeller. Donc, une agitation intellectuelle qui se fait aux États-Unis, relayée par les économistes dont je parlais tout à l'heure, et qui aboutit en 1890 à la première loi antitrust du monde, la loi Sherman. Et que dit la loi Sherman ? Elle est directement concernée par la concentration et le pouvoir de marché. Elle dit « Le monopole est illégal et la tentative de monopolisation est illégale. » Et puis les ententes entre entreprises sont illégales. Le texte est très laconique et le texte ne définit pas ce qu'on entend par monopole ou tentative de monopolisation. Ce seront les cours et la Cour suprême à définir ces concepts. Mais le message est clair et le message est issu de ce que je disais tout à l'heure en théorie. Le monopole, c'est mauvais. Il faut donc l'interdire. Et quant aux ententes, qui est une pouvoir de monopole collectif dont je parlais tout à l'heure, vous savez, c'est amusant parce que le terme entente en français a une connotation amicale. On s'entend entre nous, comme ça, en bons amis. Le terme anglais pour traduire entente, c'est conspiracy. Parce que c'est une conspiration contre la concurrence, l'entente. Et donc, c'est très fort. Alors, à partir de ce texte fondateur, on va avoir une jurisprudence qui va s'installer, et notamment, en 1911, la Standard Oil va être démembrée en 33 sociétés indépendantes, Rockefeller ayant été accusé de tentative de monopolisation et de monopolisation effective du marché pétrolier. Et de ces 33 sociétés indépendantes sont issues des sociétés que vous connaissez aujourd'hui, puisqu'il y a la Standard Oil of New Jersey qui s'appelle Exxon, première société mondiale. Il y a Socony de New York, la Standard of New York qui s'appelle Mobil, on y reviendra. Et puis une connue aussi qui est la Standard Oil of California qui s'appelle Chevron. Alors, à partir de là, l'étude de l'antitrust va se confondre avec, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui dans nos facultés de sciences économiques, l'économie industrielle. Et les économistes industriels, à la fois de Harvard et de Chicago, vont débattre. Qu'est-ce qu'un monopole ? Quand faut-il l'interdire ? Qu'est-ce qu'une tentative de monopolisation ? Et c'est le début des études de cas de Harvard, notamment. On va utiliser ces procès antitrust pour conceptualiser et pour arriver finalement à une méthode qui est celle encore utilisée aujourd'hui en économie industrielle. Cette méthode, c'est structure, comportement, résultat. Et suivez mon raisonnement, si les résultats ne sont pas, sont différents de ce que devrait nous amener la concurrence pure et parfaite, c'est que les comportements sont mauvais ou que les structures sont mauvaises. Dans le cas Rockefeller, c'est clair, des prix quasiment de monopole et de monopsone, donc le résultat est mauvais. Le comportement de Rockefeller est mauvais, mais la structure est mauvaise, donc il faut démembrer. Donc voilà un raisonnement économique qui prend corps entre les deux guerres mondiales, qui se développe, qui se devient plus sophistiqué avec de nouveaux instruments sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui a bien pour but fondamental de faire en sorte que notre économie soit gouvernée par les secteurs où les tendances concurrentielles sont plus fortes que les tendances de monopole, qu'il faut encourager la concurrence, workable competition, qu'il faut sanctionner les pratiques monopolistiques. Et je voudrais rappeler aussi que j'ai utilisé le terme d'économie industrielle, mais le terme utilisé aux États-Unis et d'ailleurs au Royaume-Uni, c'est le terme de industrial organization. Et la question fondamentale qui est derrière, quelle est la forme d'organisation économique qui est la meilleure pour notre société ? Et donc les questions, les sous-questions posées, monopole, concurrence entre les deux. Alors, l'antitrust a une longue histoire faite de cas, des cas de pouvoir horizontal, des cas de pouvoir vertical, des cas de pouvoir conglomérat. Et elle a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire que si on fait un schéma sur la sévérité de l'antitrust américain, on peut dire qu'il a atteint son apogée dans les années 1970, où de bons esprits, il y a donc 30 ans, revendiquaient sérieusement le démantèlement d'IBM, d'Exxon, de General Motors, etc., etc. Et puis après, il y a eu une espèce de relâche de la sévérité parce que l'internationalisation ne voulait pas pénaliser les entreprises américaines plus que d'autres, et donc il y a une relâche de l'antitrust, et qui rebondit maintenant avec l'affaire Microsoft. Mais vous voyez que dans Microsoft, on trouve toujours ce débat du 19e siècle. Quelle dose d'intervention faut-il ? Faut-il laisser Microsoft vivre dans un processus darwinien de destruction créatrice ? Ou faut-il au contraire sanctionner Microsoft, le démembrer, comme on a démembré la Standard Oil en 1911 ? Alors, voilà pour les États-Unis que j'ai fait un panorama rapide de la chronologie. Le mouvement actuel de concentration maintenant. Je n'ai pas parlé de la France, parce que si je parle de la France deux minutes, vous allez voir que notre problématique, elle est complètement différente. En France, on a eu et on a encore un secteur public extrêmement développé pour lequel le problème de la concentration ne se pose évidemment pas, ni celui de pouvoir de marché. Et puis, à côté, on avait un secteur privé qui, petit à petit, s'est restructuré dans les années 60-70. Et je prendrai un exemple. Vous connaissez Danone, mais Danone s'appelait jusqu'à pas longtemps BSN. Et BSN, ça voulait dire quoi ? Ben, dans les années 60, il y avait deux fabricants de verre creux qui étaient Souchon et Neufcel, qui ont fusionné et qui ensuite se sont rapprochés des glaces de Boussois, fabricants de verre plat. L'ensemble a donné naissance à BSN dans les années 66, qui était, je dirais, le petit du verre par rapport au grand Saint-Gobain qui régnait sur la profession. Et en 68, le petit BSN a eu l'audace de s'attaquer au grand Saint-Gobain en lançant une OPA qui a laissé des traces et qui a raté. En termes de pouvoir de marché et de concentration, BSN voulait construire un pouvoir de marché horizontal en prenant le contrôle de Saint-Gobain. Ça n'a pas marché. BSN, dans sa grande astuce stratégique, s'est tourné vers le pouvoir vertical en intégrant à partir de ce moment-là beaucoup de firmes d'agroalimentaire, du type fabricant de yaourts, d'aliments pour enfants, d'eau minérale et de bière. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans tout ça ? Des contenants verts, de façon à pouvoir vendre au consommateur final non seulement le contenu, mais aussi le contenant valant parfois plus cher que le contenu. Et donc, on voit bien un développement de pouvoir vertical, mais dans une industrie française encore très atomistique, qui se restructure pour obtenir des gains d'efficacité et des économies d'échelle et d'envergure. Aujourd'hui, Danone est devenue l'une des premières firmes agroalimentaires mondiales, et donc aujourd'hui, c'est bien dans une problématique mondiale que se situent les problèmes de concentration et des limites de concentration. En effet, dans ces trois dernières années, on a assisté à un mouvement de super-concentration que personne n'aurait imaginé il y a quelques années. Lorsqu'on voit des fusions comme ExxonMobil, deux anciennes sociétés du groupe Rockefeller. Quand on voit les fusions BP, Amoco, Arco ou Renault-Nissan, Mannesmann, Vidafone, on voit des fusions d'une taille exceptionnelle qui font qu'aujourd'hui, le champ de bataille ne sont plus les États-nations, mais d'emblée le monde, ce monde globalisé de l'économie de marché, avec une espèce de frénésie de la concentration et aussi une disparition intéressante du rôle de l'État. C'est peut-être l'été dernier, au moment de la fusion entre BNP Paribas, qu'on a vu que l'État avait beaucoup moins de moyens d'agir qu'autrefois. Et donc on a là quelque chose qui nous interpelle beaucoup, c'est qu'on a une espèce de constitution de firmes d'une taille absolument phénoménale qui souvent pèsent beaucoup plus que les États, que nombre d'États dans le monde. Et donc comment poser aujourd'hui le problème de la concentration et de ses limites? Cette concentration globale auquel on assiste depuis quelques années, quels sont les arguments avancés? Synergie. Plus précisément, les synergies, c'est quoi? C'est économie d'échelle. Plus on est gros, moins le coût unitaire, plus le coût unitaire est faible. Économie d'envergure, c'est-à-dire le fait de combiner plusieurs activités qui ont quand même une sorte de dénominateur commun, peut entraîner une baisse de coûts. Si vous prenez LVMH, qui est un beau cas de concentration dans le produit de luxe, on peut imaginer qu'au niveau de la distribution, le fait de combiner du cognac, du parfum et des bagages de luxe abaisse le coût unitaire d'accès aux clients et de commercialisation finale. Il y a donc cette raison de synergie sous forme des économies que je viens de citer. Il y a la taille en elle-même. La taille en elle-même qui apparaît d'une façon un peu interpellante comme un avantage en soi aujourd'hui. Pendant longtemps, on a parlé de taille critique, mais le problème est un peu dépassé. Exxon, Mobil, BP, Amoco avaient la taille critique. Et donc c'est autre chose qui est cherché. Et ce qui est cherché, c'est d'une part la taille absolue, et la taille absolue en grande partie parce qu'elle donne la puissance financière. Je pense encore à Exxon Mobil. Il va y avoir beaucoup de choses à vendre dans le monde, des pays en développement qui privatisent. Et que plus on est gros, plus on peut à la fois répartir les risques et être le premier à pouvoir mettre sur la table tant de milliards de dollars. Donc la puissance financière absolue apparaît comme un avantage comparatif en soi aujourd'hui. Et puis naturellement, il y a la recherche toujours de ce pouvoir de marché sous forme horizontale plutôt aujourd'hui que verticale. La recherche de ce pouvoir de marché qui notamment permet à des entreprises de ce type d'opérer assez aisément, surtout dans des pays où la concurrence n'est pas surveillée. Et puis il y a probablement d'autres raisons, dont l'exercice des stock options ou les golden parachutes, c'est-à-dire les sommes payées à quelqu'un pour qu'il cesse de travailler, ne sont pas complètement étrangères à la logique de ces mouvements. Y a-t-il des limites? Oui, il y a des limites. La limite, c'est d'abord le rôle des autorités antitrust, mais les autorités antitrust, c'est surtout la Federal Trade Commission aux États-Unis et la Commission de Bruxelles en Europe, qui, elles, regardent de près. Elles regardent de près ces fusions et elles cherchent à voir si ça ne va pas entraîner une diminution de la concurrence sur tel ou tel marché, et elles ordonnent des désinvestissements d'une façon qui paraît relativement raisonnable et relativement efficace. Par contre, en dehors de ces deux zones du monde, rien n'est surveillé. On peut se demander s'il n'y a pas comme limite aussi le fait qu'à partir d'une trop grande taille, il y a des déséconomies d'échelle, la difficulté de gérer de très grosses structures, mais j'y reviendrai dans ma dernière partie. Et que finalement, les statistiques, c'est difficile d'en avoir des statistiques précises, on a eu des thèses à Dauphine qui ont été faites sur ces sujets, dont les conclusions ne sont pas très robustes. Plus de la moitié des fusions se soldent par les échecs en termes d'augmentation de la valeur de l'entreprise telle qu'elle est perçue par les marchés. Donc les arguments invoqués pour les fusions, ça marche dans certains cas, ça ne marche pas dans beaucoup de cas. Et il y a, semble-t-il, un obstacle aussi qui est très important, c'est le problème des cultures. Vous ne pouvez pas impunément marier deux entreprises qui n'ont pas la même culture. Alors dans certains cas, c'est rapidement réglé. Je pense BP, Amoco, Arco, c'est clair. Comment vous appelez cette compagnie nouvelle, là? BP. C'est la culture BP qui manifestement s'impose à toutes les autres. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Alors, ceci m'amène, il me reste, je crois, 10 minutes, 12 minutes, à ma troisième partie, qui est peut-être un peu plus courte, parce qu'elle est peut-être plus faite d'interrogations que de réponses. On peut plus analyser l'histoire que de savoir quelle va être la prospective de la concentration. Et la concentration à la nouvelle économie. Alors, la nouvelle économie a un mot galvaudé, mais je dirais très simplement que, pour moi, et d'ailleurs à Dauphine, on a un consensus là-dessus, la nouvelle économie, c'est tout simplement une organisation de l'économie mondiale qui est fondée sur une interconnexion complète de tous les offreurs et demandeurs réels et potentiels. Une économie donc qui passe par le net et qui introduit une interconnexion rapide et sur l'espace de la planète entre tous les acteurs. Et que l'émergence de cette nouvelle économie, donc qui va toucher l'économie, la nouvelle économie, ce n'est pas les valeurs du Nasdaq, ce n'est pas Microsoft, AOL, etc. La nouvelle économie, c'est la nouvelle organisation de toutes les industries auxquelles nous sommes habitués, dont nous avons besoin, mais qui vont utiliser toutes les opportunités que leur offre maintenant l'existence du réseau accessible par tout le monde. Dans cette nouvelle économie, la loi de l'offre et de la demande, elle n'est pas modifiée fondamentalement, mais ses conditions d'application sont modifiées. C'est-à-dire que cette mise en communication permet de voir les prix, de voir les signaux de prix, de comparer très, très rapidement, et donc d'organiser des transactions, des appels d'offres, des enchères, etc., etc., qui fait que la façon dont l'offre et la demande se mettent en relation est complètement bouleversée par la généralisation de ces nouvelles technologies de l'information. Et qu'elle bouleverse aussi complètement, et ça c'est peut-être un des points les plus importants, elle bouleverse les chaînes de valeur. L'un des exemples les plus extraordinaires auxquels on puisse assister en ce moment, et on y assiste presque en vraie grandeur, c'est l'industrie de l'électricité. Je ne connais pas dans l'histoire une industrie qui a été aussi fondamentalement bouleversée, en train d'être bouleversée en quelques années. C'est-à-dire que nous, notre cher modèle, c'était EDF qui produit, qui transporte et qui distribue en monopole public total. Or, aujourd'hui, cette intégration verticale est complètement coupée par des marchés. C'est-à-dire qu'à terme, ça prendra un an, deux ans, vous aurez au niveau européen des producteurs qui offreront du kilowattheure, un kilowattheure qui devient une commodité comme une autre, et un kilowattheure qui se vend sur un marché, et puis ensuite qui va acheter des traders, des brokers, des intermédiaires, qui vont revendre à des sociétés de distribution qui s'appelleront peut-être Leclerc ou Carrefour, et peut-être que dans trois ans, nous irons acheter notre contrat d'électricité pour un mois chez Leclerc ou Carrefour. Vous imaginez ? Et qu'entre le haut et le bas, c'est entre la centrale qui produit du kilowattheure et vous, le consommateur final, il y a des multitudes de marchés qui sont des marchés physiques et financiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un marché qui s'installe pour l'électricité ou pour toute autre commodité, j'ai de la volatilité des prix. Volatilité, ça veut dire risque, et risque, ça veut dire assurance contre le risque, donc développement de marchés financiers de couverture de risque, y compris de couverture de risque climatique qui commence à apparaître, c'est-à-dire qu'on se couvre contre le risque d'une journée trop chaude ou trop froide, où le prix de l'électricité pourrait monter à des niveaux extravagants et que donc peut mettre en faillite des entreprises. Alors, vous avez là, si vous voulez, je reviens à mes problèmes de concentration, mais dans cette nouvelle chaîne de valeur complètement déverticalisée, et toutes les chaînes de valeur sont en train de se déverticaliser par la conjonction de l'Internet et de la libéralisation. Que devient le pouvoir de marché ? Il peut y encore y avoir à l'amont des fabricants d'électricité, des producteurs qui manipulent les marchés aval. C'est ce qu'on voit au Royaume-Uni et un petit peu en Scandinavie et aussi en Espagne. Au milieu, marché, 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 mais à l'aval, il peut y avoir à nouveau concentration horizontale. Concentration horizontale avec la reconstitution d'un pouvoir de monopole ou d'un pouvoir de marché fort dans la vente au client final. J'y reviendrai. Donc l'Internet provoque des effets contradictoires, notamment sur les grandes méga-fusions qu'on a vues. Et je reviens sur mon exemple BP Amoco. BP Amoco qui aujourd'hui est une des firmes les plus performantes du monde en termes d'organisation et de culture. Donc c'est une puissance financière fantastique qui a construit un pouvoir horizontal fort pour pouvoir acheter ce qui se présente à vendre sur les marchés. Mais en même temps, BP est probablement la première société à utiliser Internet pour outsourcer, faire faire par d'autres, de façon plus efficace et moins onéreuse. Et rendez-vous compte que BP, à cause de l'Internet, a externalisé il y a quelques mois la gestion de ses ressources humaines. C'est toujours BP qui décide qui on prend ou qui on vire. Mais tout ce qui est logistique derrière, carrière, etc., c'est fait par l'extérieur, grâce à Internet. Et que la capacité d'externalisation devient extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une contradiction entre BP Amoco étant une firme très puissante au niveau mondial, mais finalement faisant relativement peu de choses directement, le faisant faire par les marchés auxquels on peut accéder par le net. Reste un gros problème pour BP Amoco à Laval. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont continuer à vendre leur essence dans les stations-service qui vont peut-être devenir des grandes surfaces ? On ne sait pas. Vont-ils vendre directement leur essence par Internet ? On ne sait pas. De toute façon, il y a un point où nous, consommateurs, nous sommes obligés d'aller, c'est la station-service. Peut-être profiteront-ils de cet espace urbain et de cet actif foncier pour nous vendre des tas de choses d'autres, sous forme de contrat. Donc, vous voyez, les interrogations qu'on peut se poser, qui sont tout à fait passionnantes, parce que on est dans un monde en complet bouleversement par le fait de l'Internet. Et quand on voit une fusion comme Time Warner avec AOL, un producteur d'images, un producteur de savoir, un producteur de digital, avec un accès. Est-ce que ça tiendra ? J'en suis pas sûr, parce que ce réseau va être de plus en plus ouvert, et donc on aura des gens qui vont sur le réseau, puis des gens qui achèteront sur le réseau, et tout aussi par un système de e-transaction qui se fera, et qui donnera des prix en temps réel, et des transactions en temps réel, etc., avec d'autres problèmes qui vont se poser, qui est celui, toujours ce problème de concentration. Prenons le cas dont on parle beaucoup, Amazon.com. Ils vendent des livres pour l'instant. Il vaut très cher et ils perdent de l'argent. Il vaut très cher en bourse, ils perdent de l'argent. Mais qu'est-ce qui vaut très cher ? C'est que maintenant, Amazon.com a un point de contact avec entre 15 et 20 millions de clients dans une vingtaine de pays. Or, ça vaut de l'or. Parce que après avoir vendu des livres, on pourra vendre autre chose. Et donc, il y a bien là un risque de reconstitution de pouvoir de marché à Laval. Je conclue. Je conclue en disant... Oui, le sujet de la concentration est un sujet important. Oui, le pouvoir de marché est son expression la plus directe. Et oui, il y a des distorsions de la concurrence. On a des outils, mais je crois que les indices de concentration de type Gini ou Erfindal, ils ne sont plus très opérationnels aujourd'hui dans un moment où le marché pertinent est le marché mondial et non pas un espace géographique très ciblé. Et puis, avec cette nouvelle économie, les frontières géographiques disparaissent, les frontières entre les métiers disparaissent, les frontières entre l'amont et l'aval sont elles-mêmes remises en cause par une multiplication de marchés différents qui atteignent des degrés de sophistication qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années. L'autre jour, je dis à mes étudiants en matière électrique, aujourd'hui... dans le système de type anglais ou scandinave, la stratégie, c'est de bider à zéro sur le pool. Pardon ? Oui, je dis bien bider à zéro sur le pool. C'est-à-dire proposer sur le marché pour demain du kilowattheure à un prix nul. Ce prix sera déterminé demain par le pool. Et le pool, c'est quoi ? C'est un marché du kilowattheure sur lequel s'établira demain ce prix. Et quel que soit ce prix, moi, je vends. Bon, pour vous dire simplement qu'on est en train d'élaborer dans cette nouvelle économie un vocabulaire qui change tous les jours, qui introduit de nouveaux mots et qui évidemment est une formidable interpellation de notre intelligence et de nos imaginations. Alors je dirais pour finir que dans cette ébullition actuelle, dans laquelle il y a concentration sous les formes nouvelles, il y a à la fois des forces centripètes et des forces centrifuges. Des forces centripètes, c'est-à-dire que, quand je dis forces centripètes, c'est qui nous ramènent vers la concentration et le pouvoir de marché. Forces centrifuges qui nous en éloignent. Forces centripètes, c'est cette course à la taille, cette constitution de puissance financière, de méga-firmes, dont je vous disais la puissance financière est supérieure à celle de bon nombre d'États dans le monde. et avec derrière les méthodes ou les envies de prédation, de collusion, de discrimination et tout ce que le langage de l'antitrust peut comporter comme des pratiques maléfiques. Je dirais aussi, et je pèse mes mots, l'apparition peut-être d'une nouvelle forme d'impérialisme. Car dans le fond, quand une firme aussi puissante se comporte dans le monde, bah c'est vrai qu'aux États-Unis ou en Europe, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, mais ailleurs, il n'y a pas tellement de surveillance. Donc n'y a-t-il pas un risque de reconstruire, notamment sur les pays les plus pauvres ou les moins organisés, un pouvoir de marché qui est à ce moment-là un problème de ponction de surplus dans les mots les plus traditionnels du terme. Ça, ce sont les forces centripètes, ce sont les dangers. Et puis, et j'ai mis les forces centrifuges en second, eh bien je crois qu'il y a quand même quelques limites à ce pouvoir maléfique, notamment parce que cette ébullition de l'innovation qui est exacerbée et sollicitée par Internet fait qu'on voit apparaître des compagnies virtuelles. On voit aujourd'hui des compagnies pétrolières avec 5 personnes qui choisissent des endroits, ne touchent pas le pétrole. Elles font produire, elles font transporter, elles font raffiner et puis elles vendent à la distribution. Coût fixe très bas et éventuellement ces nouveaux entrants peuvent remettre en péril des traditions longuement établies de coût fixe et de rigidité. Force centrifuge parce que de plus en plus il y aura transparence des prix. Et que donc, quand tout à l'heure je parlais du danger d'imposer des prix élevés dans les pays pauvres, ça se saura par Internet. Et que donc, à partir du moment où ça se fait et où il y a la transparence, il y a des. Et que ça s'instaure à travers des forums de discussion, il y a des contre-pouvoirs qui s'établissent. Et je crois beaucoup à la multiplication des contre-pouvoirs par Internet. Car la multiplication des contre-pouvoirs, ça va dans le sens d'une meilleure. D'une meilleure concurrence et donc d'une meilleure allocation des ressources. Alors, je dirais que dans ce contexte, oui, il faut réfléchir et travailler il faut réagir et travailler pour la mise en place probablement d'autorités de surveillance au niveau international pour surveiller ces problèmes de pouvoir de marché et de concentration, non pas sur quelques zones privilégiées, mais sur l'ensemble de la planète. Et puis que je dirais aussi, et ce sera mon dernier mot, qu'il faut aider à la multiplication de ces contre-pouvoirs qui permettent d'avoir une économie qui est plus fluide, plus créative, plus imaginative, et qui peut donc lutter contre ces forces de résistance et ces forces centripètes. Merci.
Merci beaucoup, M. le Professeur. Maintenant, place au débat. Monsieur à gauche, en haut des escaliers.
Oui, monsieur, merci de cette conférence qui était très intéressante. Je voudrais simplement mettre le doigt sur quelque chose qui m'a paru assez contradictoire. C'est de parler à la fois des lois du marché citées par le libéralisme d'aujourd'hui, l'ultralibéralisme, comme étant le parangon de l'économie aujourd'hui, et ce phénomène de concentration et de fusion absolument massif. Ça, c'est la première contradiction que je note. La deuxième est cette espèce de frontière absolument infranchissable, semble-t-il, qu'il y a entre l'économie et la sociologie. Tous ces mouvements de fusion-acquisition ont des répercussions sociologiques importantes dont on ne tient jamais compte dans le discours économique. Je voudrais avoir votre opinion sur ces deux idées.
Alors, sur le second point, je suis d'accord avec vous, je vais y revenir. Sur le premier point, non. Enfin, je ne vois pas de contradiction parce que on a des lois de marché, mais des lois qui sont imparfaites. Il y a des frictions. Il y a des frictions dans la confrontation de l'offre et de la demande. La concurrence pure et parfaite, elle n'est pas de ce monde. Si je reprends mes 5 conditions de la concurrence pure et parfaite, ben je les retrouve nulle part, pratiquement. Atomicité, je la trouve pas. Homogénéité, je la trouve pas. Libre entrée, je la trouve pas. Transparence, je la trouve pas. Et mobilité des facteurs de production, je la trouve pas. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est effectivement dans un monde de concurrence imparfaite, où les lois économiques dont vous parlez ne fonctionnent pas, où elles fonctionnent avec friction, comme en physique. Et comme elles ne fonctionnent pas, ça crée des déséquilibres. Mais l'univers de concurrence pure et parfaite, il est statique. L'univers dans lequel nous sommes, il n'est pas statique par définition, puisqu'il est fait de différences. Et ces différences, ça veut dire que, en termes de fusion-acquisition, les uns à un moment donné, sont plus forts que les autres ou plus malins que les autres. Et ils ne vont pas rester les bras baissés, ils vont profiter de cette force temporaire qui leur est donnée pour augmenter leurs appétits et prendre toutes les opportunités qui leur sont offertes pour croître. Autrement dit, toute l'histoire économique, et au fur et à mesure qu'elle se complique, elle est faite de rapports de force. Et les rapports de force sont fondés sur les inégalités. Et les inégalités, ce sont des frottements. Si on était en concurrence pure et parfaite, il n'y en aurait pas. Mais la concurrence pure et parfaite, elle n'est pas de ce monde. Donc il n'y a pas de contradiction entre je mets une nuance, vous avez dit les lois de marché, je dis le fonctionnement imparfait des lois de marché et les fusions-acquisitions. Je suis d'accord avec vous sur l'écart entre le langage des économistes et, la sociologie des fusions-acquisitions. La sociologie des fusions-acquisitions, elle a été, à ma connaissance, très peu étudiée, et c'est probablement un superbe sujet d'étude. Parce que derrière ces fusions-acquisitions, vous avez des hommes, et là-dessus, il y en a qui en font les frais, et il y en a qui en profitent. Et que ça interpelle les cultures d'entreprise. Et que, naturellement, là, on est un petit peu dans un monde aveugle, parce qu'une fusion-acquisition, ça se fait parce que il y a à un moment donné une opportunité qui permet d'acheter à bon compte et qui permet par conséquent à un certain nombre de gens d'en bénéficier, ce compris l'initiative. Il faudrait introduire là-dedans, pour que l'analyse soit complète, les phénomènes de contrôle. J'entends par contrôle, dans les fusions-acquisitions, derrière chaque société, qui contrôle? Et selon qu'on a un actionnariat très dispersé qui attend une augmentation de la valeur ou bien un actionnariat concentré de type groupe ou famille, on a des mouvements différents. Mais cela dit, donc, je suis d'accord avec vous, la sociologie des fusions-acquisitions est un champ à défricher.
Merci beaucoup. Madame ?
J'étais très intéressée par ce que vous nous avez dit et je voudrais vous poser trois questions. Vous avez des étudiants et ici nous pensons des choses à la suite de ce que vous nous avez transmis, mais nous ne sommes pas ici pour l'exprimer. Comment réagissent vos étudiants à cette situation nouvelle que vous venez de nous décrire ? Première question. Deuxième question, lors de ces bouleversements sauvages qui se passent dans l'industrie, comment, disons, l'industrie peut subsister au niveau des compétences ? Parce que les gens qui achètent, c'est-à-dire qui manipulent de l'argent, n'ont pas nécessairement les compétences. Et qui détient les compétences ? Et est-ce que les compétences vont demeurer ? Parce que ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que lorsqu'on renvoie toutes les personnes d'un certain âge, les savoir-faire disparaissent. Et disons que ça va disparaître encore beaucoup plus violemment dès l'instant où c'est l'argent qui compte et on licencie, enfin, je prends l'exemple Michelin et autres, etc. On licencie simplement pour faire de l'argent à court terme.
Et on va peut-être laisser question. Le professeur répondre aux deux premières questions, puisque s'il y a d'autres questions dans la salle. Monsieur le professeur.
Alors, mes étudiants, ils sont plutôt heureux, hein. Ils sont plutôt heureux parce qu'ils voient un univers nouveau qui s'ouvre à eux. Je leur dis très volontiers, parmi vous, la moitié d'entre vous feront dans 4 ans des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc vous êtes à l'université pour apprendre à avoir une solide culture économique et pouvoir vous adapter à un monde dans lequel il n'y a pas que le diplôme qui compte, mais les valeurs humaines. Et les valeurs humaines sont les valeurs d'adaptation, de savoir comprendre les opportunités qui arrivent, de le vivre avec intelligence, dans des bons rapports avec les autres. Et je crois que ça, c'est une des choses passionnantes, c'est que dans ce monde qui est peut-être un peu dur, je crois que les valeurs humaines sont affirmées comme un atout essentiel dans ce nouveau monde de l'Internet. Et le diplôme, celui qui a passé des années à bosser, et qui est arrivé à Bac plus 6 sans regarder ce qui se passait ailleurs, il part mal armé dans la vie. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ça remet en cause les positions acquises. Quant aux compétences, c'est une question très intéressante. J'aurais tendance malheureusement à vous donner une réponse assez cynique aujourd'hui. Mais cynique parce qu'on est dans une phase de transition. Et quand je dis cynique, c'est que je crois que, ben oui, il y a peut-être des compétences qui vont manquer, donc leur prix va augmenter, et le marché va faire que le prix augmentant, on va en former de nouvelles, et donc l'équilibrage se fera par le marché. Je ne crois pas à la disparition des compétences, je crois simplement à ce que les compétences seront disponibles sur les marchés à un prix qui reflétera leur rareté. Alors ma réponse est cynique parce qu'une réponse en disant c'est le marché qui va régler tout ça. Et qu'on passera peut-être à par des moments où il y aura une perte de compétences. Mais j'y crois pas beaucoup parce que c'est l'idée selon laquelle on va maintenir des ingénieurs nucléaires parce que peut-être dans 20 ans on recommencera à construire des centrales, c'est pas un argument. Les capacités intellectuelles et technologiques, on les reconstruira lorsque le moment sera venu. Et je suis très optimiste sur la nature humaine et la possibilité de créer rapidement les compétences dont on a besoin.
Merci.
Vous avez
Madame, parlé... au milieu.
Vous avez parlé de concentration économique. Je crois qu'on pourrait aussi parler de concentration intellectuelle, l'intellectual market, car aujourd'hui, des standards sont imposés dans les industries en informatique qui imposent donc un standard de production ou un standard de langage. On n'a pas de contre-pouvoir, on n'a pas de loi antitrust. Je pense qu'à terme, il peut y avoir aussi une dérive au système.
Oui, mais ce n'est pas le sujet qu'on m'a donné. Donc, je ne l'ai pas traité.
Bon, merci. Monsieur à gauche, ensuite monsieur à droite et à droite également.
Une seule question. Lorsqu'une société monopole est démembrée, comment cela se passe pour les propriétaires, pour les actionnaires?
Il est à gauche.
Comment ça se passe, si vous voulez, il y a un travail de séparation concrète. C'était exactement le problème qui se pose pour Microsoft à l'heure actuelle. Est-ce qu'on va faire 10 petits Microsoft ou bien est-ce qu'on va séparer différentes activités de Microsoft? Bon. Alors, c'est de la technique comptable, c'est-à-dire enfin, de la technique comptable et d'évaluation qui est très complexe. On a quand même des expériences. L'expérience la plus récente, c'est les Babybel aux États-Unis où AT&T a été démembré. Et donc, on a flotté, c'est-à-dire enfin, on a démantelé l'entreprise en 10 sociétés qui étaient juridiquement indépendantes l'une de l'autre et dont chacune a subi sa propre évaluation et sa cotation en bourse. Donc c'est, je ne dirais pas que c'est de la cuisine, mais ce sont les choses qu'on sait faire. Je ne dis pas que toujours ça reflète la valeur parce qu'on a un énorme problème à l'heure actuelle dans l'économie, pas seulement la nouvelle, d'évaluation de la valeur. Puisque en principe, si vous voulez, la valeur d'une chose aujourd'hui, d'une entreprise, c'est le cash flow qu'elle peut rapporter dans les 15 ans qui viennent. Or, on est dans un monde qui est tellement incertain et tellement complexe qu'on arrive parfois aujourd'hui d'avoir des estimations de valeur très, très différentes. Donc, je dis simplement pour répondre à une question que techniquement, on sait faire. Est-ce que ça correspond à une véritable valorisation, etc. Ça, on ne peut pas l'affirmer.
Merci. Monsieur, à droite.
Vous avez parlé de rapport de force et on ne peut que vous donner raison, bien sûr. Ces rapports de force indiquent que certains ont justement le pouvoir. Alors, vous avez parlé essentiellement des commerçants, des gens, en somme, qui achètent et qui vendent. Ça, c'est pas nouveau. Vous avez, comme force, vous avez les politiciens. Actuellement, ils sont faibles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique mondiale. Mais on peut concevoir, d'ailleurs, vous l'avez évoqué à la fin de votre discours, on pourrait concevoir des instances internationales remplaçant ces politiques locales. Et troisième... autre force, les forces amont et les forces aval que vous avez évoquées d'ailleurs, et enfin une force qui est l'intérêt des consommateurs, qui est la force aval d'ailleurs. Alors, est-ce que finalement il ne faudrait pas souhaiter un monde où la politique intervienne uniquement pour jouer, pour avoir une politique de balance, somme toute, pour éviter qu'il y ait trop de force, il y ait trop d'une certaine force?
Compliquée et pertinente. On est dans un état de redéfinition des niveaux de pouvoir. Manifestement, l'État-nation est quelque chose qui n'est plus tellement adapté pour autant de problèmes qu'il voulait autrefois en traiter. Donc on a besoin d'un niveau supranational qui peut être l'Europe ou le monde. Et puis il faut bien voir qu'il y a aussi une affirmation du pouvoir local. Il y a à la fois globalisation des économies et localisation ou... De certaines formes de pouvoir. Je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, les gens sur le terrain ont envie de... Les citoyens consommateurs sur le terrain, et ça répond un peu à la question des consommateurs, ont envie de prendre part activement à la façon dont on peut définir leur environnement dans lequel ils vivent tous les jours. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité des transports, type d'énergie qu'on veut consommer ou pas, etc., etc. Et je dirais peut-être à la limite, type de convivialité que l'on veut instaurer en utilisant le net et le reste. Donc je crois que le net va beaucoup participer à cette redéfinition des niveaux de pouvoir, donnant une place plus importante au niveau local, aux consommateurs, etc., et une part peut-être moins importante au pouvoir politique tel qu'on l'on concevait depuis des siècles.
Merci. L'avant-dernière question, monsieur à droite, et après monsieur à la dernière.
Je sais, j'éprouve quand un sentiment d'inquiétude, c'est peut-être parce que je suis un peu nunuche, mais parce que, en fait, Internet, c'est un service. Il y a actuellement une faillite d'un producteur de ce service. Qu'est-ce qu'il y a comme couverture de ce type de risque, s'il vous plaît?
Alors, si j'ai une réponse cynique, que je ne ferai pas, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans notre nouvelle économie, tout risque peut être couvert par un marché. Bon, mais ce n'est pas la réponse que je vais vous faire. Je dirais que, d'abord, je n'ai pas fait une conférence sur la nouvelle économie. C'était un peu à la fin, si vous voulez, la corrélation entre la concentration économique et la nouvelle économie. Cette nouvelle économie, on en découvre les lois avec, optimisme et angoisse. C'est-à-dire que d'une part, il y a, me semble-t-il, une très grande possibilité, un très grand développement de la créativité. Un individu isolé peut créer maintenant qu'il y a Internet, peut transformer son idée à la limite en business plan. Et ça, c'est magnifique. Ça peut donner de l'occasion à des gens isolés de faire passer des idées qu'ils n'auraient pas pu faire passer autrement. Alors, maintenant, les inquiétudes et les angoisses, c'est qu'effectivement, il y a des faillites, il y aura des morts dans cette affaire. Il y aura des gens qui vont être exclus du processus d'Internet. Il y a Alors, à l'heure actuelle, il y a une espèce de prolifération de plans dans lequel il y a tout et rien. Donc, il y a une période de tri, de transition, qui va être peut-être dure à vivre. Mais personnellement, je suis plus optimiste que pessimiste sur cette transition, parce que je pense qu'on peut gérer la transition en veillant beaucoup à ces problèmes d'exclusion. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des gens qui sont exclus de cette nouvelle économie, et ça, il faut le gérer attentivement.
Merci. Monsieur, une rapide dernière question.
Oui, je pense qu'il existe deux marchés, ici, monsieur, deux marchés qui sont assez proches des marchés parfaits. Je pense à l'économie agricole, où il y a une atomisation des producteurs, une standardisation des produits, et un autre marché qui est légèrement différent, c'est celui de la fabrication d'articles de confection. Dans ces deux marchés, on constate une très grande génération de ruines. Ruines des producteurs et quelquefois ruines des distributeurs. Est-ce que ça ne plaide pas en faveur des concentrations ?
Alors, je ne les mettrai pas sur le même plan, vos deux secteurs. L'économie agricole reste encore quand même beaucoup une économie locale sur laquelle interviennent des puissances, des firmes agroalimentaires qui achètent, transforment et vendent. Mais sur cet aspect économique, donc la concurrence, elle est assez limitée. Et puis ensuite, la concurrence est déformée par l'idée que c'est quand même un enjeu politique très important. Donc ça participe à l'économie du lobbying, avec de la protection. Exemple, l'agriculture européenne. On ne peut pas dire que l'agriculture européenne participe à un mouvement de concurrence parfaite. Parce qu'entre leur production et la commercialisation, il y a cet effet lobbying. Et puis l'autre, la confection, c'est une industrie qui effectivement est très atomisée, où il y a des phénomènes de concurrence pure et parfaite qui peuvent jouer, où il y a de la ruine, oui, de la ruine, parce qu'il y a des coûts qui bougent, et lorsque ces coûts bougent, ben, il y en a un qui se met en faillite parce que l'autre va prendre le marché. Et donc, c'est un truc à turnover rapide. Dans quelle mesure ces secteurs vont être bouleversés par le net? Je crois que le net va introduire, par rapport à votre préoccupation de ruine, plus de flexibilité, d'adaptabilité, de créativité. Et c'est ça le plus important. Voilà ce que je pourrais dire.